À rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Jacques Maritain. Je vous ai déjà parlé de sa femme, Raïssa Maritain. Mais aujourd'hui, je parlerai surtout de Jacques, mais je ne voudrais pas m'aventurer dans le domaine de la philosophie, mais surtout de la personnalité de Jacques Maritain, qui était un des hommes les plus attachants et les plus aimés par la très grande majorité des gens au cours de ce 20e siècle. Il est mort en 1973. C'est un grand philosophe chrétien, c'était un thomiste, un fidèle disciple, si on peut dire, de saint Thomas d'Aquin, un homme marié, justement, à Raïssa Maritain, qui était une juive d'origine russe, et il est mort frère de Foucault. Il est entré dans cette congrégation, ou cette association extraordinaire, une des plus remarquables des derniers 75 ans environ, puisque c'est un groupe de prêtres et de frères de Jésus, comme on les appelle, et qui ont vraiment marqué l'Église, hein, depuis qu'ils ont été d'abord fondés par Charles de Foucault, mais surtout établis dans les années 30. Raïssa Maritain écrit dans, vous avez déjà lu ça, j'espère, Les Grandes Amitiés. C'est un classique, c'est un livre à lire, hein, c'est passionnant à lire. Les Grandes Amitiés de Raïssa Maritain, c'est toujours sur le marché, ça. Ça revient toujours. Elle écrit que par un après-midi, au début du siècle, nous nous promenions, Jacques et moi, au Jardin des Plantes, un jardin zoologique à Paris. Nous aimions y venir après les cours, lorsque de la Sorbonne, qui, vous savez tous que c'est l'université de Paris, hein, très ancienne université, lorsque de la Sorbonne, je m'en retournais à pied chez moi, et comme tous les promeneurs de ce jardin des plantes, nous étions familiers avec les bêtes innocentes, à qui l'on peut faire plaisir avec un peu de pain. Mais ce jour-là, nous passions sans regarder les ours, sans même entendre les phoques. C'est que, décidément, nous n'étions pas heureux. Nous étions même très malheureux. Ce sont de tout jeunes gens, ils ont 20 ans à peine. Ainsi, Raïssa Maritain commence Les Grandes Amitiés. C'est comme ça que ça commence. C'est le récit poignant du moment où cette angoisse qui nous habite tous au fond et qui habite de plus en plus nos jeunes qui n'ont aucune assise sérieuse sur le sens de leur vie, le sens. Mais l'angoisse métaphysique, là, les étreignait. C'est ça qu'elle raconte. En pénétrant aux sources mêmes du désir de vivre, et cette angoisse risquait de devenir un désespoir total, puis d'aboutir au suicide, écrit-elle. C'est ce qui arrive à ceux qui ne savent pas pourquoi ils vivent, qui s'imaginent qu'ils ne sont que des machines. Ma machine aime ta machine, faisons d'autres petites machines. Mon ensemble biologique aime ton ensemble biologique, faisons d'autres ensembles biologiques. Il n'y a pas d'âme. Or, tous deux, Jacques Maritain et Raïssa Oumantsov, c'était son nom, avaient passé en revue ce que leur avait apporté leurs années de Sorbonne, leurs années d'université. Des connaissances scientifiques et philosophiques, d'accord, mais, comme elle dit, minées à leur base, par le relativisme des savants, par le scepticisme des philosophes, le scepticisme qui désagrège la vie de l'âme, le scepticisme qui doute de tout. Et ça les laissait dans un état de profonde détresse intellectuelle et spirituelle, comme quantité de gens de plus en plus dans notre monde. Alors ils se sont interrogés, avec beaucoup d'anxiété, d'intelligence, sur le pourquoi de l'être, pourquoi vivons-nous? J'ai fait des émissions dans ce sens-là. Plusieurs vont repasser cet été à 10h le soir, en juin, juillet et août. Pourquoi vivre? Pourquoi l'être? Pourquoi y a-t-il des choses plutôt que rien? Quel est le sens à donner au mot vérité? Est-ce que ça existe, la vérité? Pourquoi le monde, essayer de justifier ce monde, de faire une émission comme ça, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Ça va passer à la fin du mois de juin. Alors ils ont pris ensuite la décision solennelle, tous les deux, tout jeunes et très beaux, hein, ils étaient superbes tous les deux, magnifiques, et un type et une fille fantastiques, faut voir les photos. Mais ils ont pris la décision solennelle de regarder en face, et jusqu'en leur dernière conséquence, écrit-elle, les données de l'univers malheureux et cruel dont la philosophie du scepticisme et du relativisme était la seule lumière, et de faire crédit finalement à l'existence comme à une expérience à faire. Ouais. Pour faire crédit à l'existence, c'est une expérience à faire, faisons-la, on la fait, puis si ça marche pas, ben on se zigouille. Ou on demande à un docteur de nous injecter une petite chose, une petite dose de je sais pas quoi. Ou bien on prend de la drogue pour oublier, de l'alcool. Et on se jette dans le sexe, et on se jette n'importe où. Pour essayer de faire une expérience de cette vie qui soit intéressante. Tout ça dans un espoir que, à leur appel véhément, tous les deux, ben, le sens de la vie pourrait finalement peut-être se dévoiler, hein? Et qu'il y aurait de nouvelles valeurs qui se révéleraient si clairement qu'elles entraîneraient leur adhésion totale. Ils ont pris un chemin. Comme elle écrit, si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide. C'est ce qu'elle écrit elle-même, elle qui est morte en odeur de sainteté. Nous voulions mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. Alors, qui était-il, ce Jacques Maritain? Qui était-elle, cette Raïssa ou Mansouf? D'où venait-il? Ils n'étaient pas catholiques, ils étaient athées. Raïssa Oumansoff est née dans une famille juive à Rostov-sur-le-Don, en Russie donc, le 12 septembre 1883. Elle était arrivée avec ses parents à Paris 10 ans plus tard, donc en 1893 évidemment. Et Raïssa entre à l'école communale du... J'aime bien ça, ces passages, vous savez, ces petites rues à Paris, toutes petites, qu'on appelle des passages. Le passage de la Bonne Graine. Probablement la Bonne Graine parce que ça mène à l'école. Ça fait de la bonne semence pour avoir des citoyens intelligents plus tard. Alors Raïssa entre donc à l'école communale du passage de la Bonne Graine et s'habitue vite à des mœurs scolaires fort différentes de celles des Russes. Et de 13 à 15 ans, elle prépare ce qu'on appelle le brevet, hein. Elle découvre les grands auteurs français comme Corneille, Racine, dont il faudrait bien que je vous parle, et Victor Hugo. Elle perd la foi. Sa foi juive. Il faut dire que ses parents ne pratiquaient plus la religion juive, mais ils croyaient toujours en Dieu. Et plus tard, alors qu'elle prépare le baccalauréat, en écoutant les Russes qui fréquentent la maison chez elle, qui sont des réfugiés politiques, des étudiants qui font le procès de Dieu puis de la société, elle est désemparée. Elle sent grandir, Raïssa, elle sent grandir en elle un ennui de vivre. Un ennui de vivre. Que rien ne peut surmonter. Ses maîtres de la Sorbonne ne répondent pas à son attente et elle apprend donc, comme ça, parce qu'il faut bien apprendre quand on est à l'université, alors elle apprend la botanique, la géologie, la physiologie, l'embryologie. En somme, quoi, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend les structures de l'univers physique, alors que elle, Raïssa, voudrait connaître les causes de cet univers, l'essence de cet univers, le but, la fin de l'univers. Pourquoi ça existe, cet univers? Et le professeur à qui elle le dit lui répond, « Mais c'est de la mystique, c'est de la mystique. » Comme c'était rien du tout, la mystique. Or, c'est ça qui compte. Un homme qui n'est pas mystique Une femme qui n'est pas mystique, qui n'a pas cette inquiétude, qui n'est pas habitée par ce questionnement pour en trouver des solutions, Céline, c'est rien du tout, finalement, d'un zombie. Alors, c'est la formule, évidemment, habituelle chez tous les professeurs qui sont des, qu'on appelle des contempteurs de la métaphysique, hein. Un jour, là, nous sommes toujours au début du siècle, au début du 20e siècle, un jour, donc, à la sortie d'un cours, Raissa voit venir vers elle un jeune homme, dit-elle, elle décrit comme ça. C'est vrai, il était comme ça, hein, Jacques Maritain, je l'ai connu. Un jeune homme au doux visage, aux abondants cheveux blonds, à la barbe légère. Il se présenta, me dit qu'il était en train de former un comité d'étudiants pour susciter un mouvement de protestation contre les traitements infligés par la police tsariste, en Russie donc, aux étudiants socialistes, car il est socialiste. Athée socialiste, Jacques Maritain. C'était donc Jacques Maritain, licencié en philosophie, comme je le suis, et qui préparait une licence de sciences. Alors ils sont devenus tous les deux inséparables, très rapidement. Il se fiance en 1902, et il se marie le 26 novembre 1904. C'est un des mariages les plus sublimes et les plus beaux, je le dis, de ce siècle. Croyez-moi, vous allez voir, Jacques Maritain, lui, était né le 18 novembre 1882, à Paris, dans une famille marquée par le protestantisme libéral, et par sa mère, Geneviève Favre, grande amie de Charles Péguy, là. Il était le petit-fils du fameux Jules Favre, qui a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale de 1870 à 71. Il était membre de l'Académie française. C'était un incroyant. Et Raissa et Jacques fréquentent le professeur Félix Le Dantec, un autre athée, qui professait, comme elle dit, un athéisme insurmontable. Il est mort, lui, en 1917, Dieu et son âme. C'est un biologiste et un philosophe. Et il a écrit un livre, d'ailleurs, qui avait fait beaucoup de tort à la pensée humaine véritable, abolissant toute inquiétude métaphysique. Alors, ce Félix Le Dantec les invitait à rechercher la synthèse de la matière vivante, mais entre eux, ils se disaient, à quoi bon la synthèse de la matière vivante? À quoi bon le pouvoir sur l'univers physique si la raison même de la vie puis de l'existence, si tout l'univers moral doivent rester des énigmes indéchiffrables? À quoi ça sert? Pourquoi tant étudier si ça sert à rien, si on comprend rien? Alors, du côté des philosophes, ils reçoivent pas de réponse au pourquoi qui les obsède sur la vie même et sur l'être. Et la seule leçon pratique, écrit-elle, qu'on pouvait recevoir de leur enseignement consciencieux et désintéressé, était une leçon de relativisme intégral. C'est ce qui se passe dans nos universités de nos jours, semble-t-il. Le scepticisme intellectuel, ajoute-t-elle, et si l'on était logique, de nihilisme moral, c'est-à-dire rien sur le plan moral. Ou s'ils sont en proie à une grande détresse ce jour d'été, ou au jardin des plantes, ce jardin zoologique, ils décident de faire crédit à l'existence, écrit-elle, comme une expérience à faire, dans l'espoir que le sens de la vie se dévoilerait. Mais ni l'un ni l'autre ne croit en Dieu, ils ignorent Jésus-Christ. Mais ils étouffent, comme avait étouffé Paul Claudel, vous ai parlé de lui souvent, dans le rationalisme. Ils étouffent dans le rationalisme. Ils étouffent dans le positivisme qui triomphe dans ce temps-là. Et ils cherchent à savoir quel sens, quel but peut avoir la vie. C'est une époque qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, hein? Et ils sentent, mais confusément, sans le reconnaître encore, qu'ils ont une âme. Oui, ils le sentent. Et la Sorbonne qui les déçoit n'est quand même pas tout. Nul ne le sait mieux que leur ami Charles Péguy, qui les entraîne à un cours d'Henri Bergson au Collège de France. Je vous ai parlé de tous ces gens, hein. Il recueille alors, comme un oracle, les paroles de ce philosophe Henri Bergson, qui depuis 1903 y trace le programme de renouveau métaphysique, qui déclare « Dans l'absolu, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. » En d'autres termes, nous sommes en Dieu, comme je vous dis souvent, et Dieu est en nous. Dans l'absolu, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Et ils suivent assidûment son enseignement. Et l'esprit, une fois nettoyé des superstitions scientistes, là, tout en restant fort méfiant vis-à-vis de l'Église, ils se sont rendus chez Léon Blois. Et je vais vous raconter cette rencontre de Jacques Maritain, et de Raissa Maritain, avec Léon Blois, cette rencontre qui est survenue le 25 juin 1905, c'est une grande date de l'histoire de l'Église du 20e siècle. Le 25 juin 1905, écrit Jacques Maritain, deux enfants de 20 ans montaient l'escalier Saint-Piternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Vous savez, à Paris, il y a un immense escalier, vous avez peut-être vu ça presque tous, je ne sais pas si vous êtes allé à Paris, le grand escalier qui monte au Sacré-Cœur de Montmartre, où en haut, il y a un Carmel, il y a un monastère de Bénédictine, il y a toutes sortes de choses à voir. Et surtout, ce grand lieu de pèlerinage au Sacré-Cœur, où on peut passer la nuit en prière. Donc, le 25 juin 1905, deux enfants de 20 ans montaient l'escalier Saint-Piternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Ils portaient en eux cette détresse, qui est le seul produit sérieux de la culture moderne, dit-il. C'est vrai. La détresse, c'est le seul produit sérieux de la culture moderne. Mais à partir de cette détresse, on peut trouver Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un pour nous guider. Donc, c'est le seul produit sérieux de la culture moderne et une sorte de désespoir actif, éclairé seulement, tous deux ne savaient pourquoi, par l'assurance intérieure que la vérité avec un V majuscule dont ils avaient faim, et sans laquelle il leur était presque impossible d'accepter la vie, un jour leur serait montrée. Ils ont de l'espoir. Une sorte de morale esthétique, continue André, Jacques Maritain, une sorte de morale esthétique les soutenait faiblement, dont l'idée du suicide. Après quelques expériences attentes et trop belles sans doute pour réussir. Ils y ont pensé sérieusement, au suicide. Alors l'idée du suicide semblait offrir l'unique issue, écrit Jacques Maritain. C'est incroyable! En attendant, ajoute-t-il, il se nettoyait l'esprit grâce à Henri Bergson, des superstitions scientistes dont la Sorbonne les avait nourris, mais en sachant bien que l'intuition bergsonienne n'était qu'un trop inconsistant refuge contre le nihilisme logiquement entraîné par toutes les philosophies modernes. Au demeurant, ajoute-t-il, tenait l'Église catholique cachée à leur vue par des préjugés ineptes et par les apparences de beaucoup de gens bien-pensants pour le rempart des puissants et des riches, dont l'intérêt aurait été d'entretenir dans les esprits les ténèbres du Moyen-Âge, comme si l'Église entretenait les ténèbres du Moyen-Âge. C'est le contraire. Elle annonce les vrais temps nouveaux. Je vous lirai tout à l'heure des textes qui disent tout le contraire. C'est de Jacques Maritain. Ils allaient vers un étrange mendiant. Cet étrange mendiant, c'est Léon Blois. Ils allaient vers un étrange mendiant qui, méprisant toute philosophie, criait sur les toits la vérité divine et catholique intégralement obéissant. Il condamnait son temps et ceux qui ont leur consolation ici-bas avec plus de liberté que tous les révolutionnaires du monde. J'ai déjà parlé de Léon Blois, c'est un personnage tellement fascinant que j'aime beaucoup. Et chez Blois, ils se sont sentis enveloppés dans une lumière décapante. Ils ont découvert, chez Blois, les valeurs de l'Évangile. Alors, ils doivent reprendre souvent le chemin de son logement à Montmartre. Et le 25 avril 1906, ça se fait assez vite, c'est l'année suivante, moins d'un an plus tard, d'un même mouvement, ils lui font part de leur décision de devenir catholique. Ça s'est fait en dedans de 10 mois. Le miracle est accompli, note le jour même Léon Blois dans son journal. Oui, le miracle est accompli. Jacques et Raïcha demandent le baptême. Et Léon Blois ajoute grande fête dans nos cœurs. Une fois de plus, mes livres, occasion de ce miracle, sont approuvés non par un évêque ni par un docteur, mais par l'Esprit Saint. C'est bien Léon Blois. Le 11 juin 1906, toujours, donc, un mois et demi après, Jacques et Raissa Maritain, respectivement âgés de 24 et 23 ans. Oui, 24 et 23 ans. Elle juive athée, lui protestant athée. Deviennent catholiques. Ils reçoivent le baptême à 11 heures du matin à l'église Saint-Jean l'Évangéliste. L'un et l'autre ont Léon Blois pour parrain. Et c'est très beau ce qu'écrit Raissa à ce sujet. Une paix immense descendit en nous, portant les trésors de la foi. Il n'y avait plus de questions, plus d'angoisses, plus d'épreuves. Il n'y avait que l'infinie réponse de Dieu. Oui, l'Église tenait ses promesses, et c'est elle la première que nous avons aimée. C'est par elle, l'Église, que nous avons connu le Christ. Alors, 2 mois plus tard, ils font au Sacré-Cœur leur première communion. À compter du jour de leur baptême, ils ont refusé toute compromission, c'est ce qu'ils écrivent, entre la vérité éternelle et les vérités d'un monde transitoire. Jamais ils ont fait de compromission. Moi, j'ai beaucoup lu à leur sujet, je trouve que ce sont des saints, et j'aspire au jour où ils seront canonisés. Un couple merveilleux, qui serait Saint Jacques Maritain, Sainte Raissa Maritain. Ah, que ce serait merveilleux. Et Jacques et Raissa n'appartiendront plus à partir de leur baptême qu'à l'Évangile. Ils vont être étroitement mêlés aux conversions qui ont marqué la génération intellectuelle du début du XXe siècle. Hein? On y était avide de spirituel. Et François Mauriac le raconte bien en quelques lignes. Il écrit tandis que entre 1905 et 1914, des parlementaires aveugles et bavards menaient au Palais Bourbon leur tapage. Un travail souterrain se poursuivait dans la jeunesse intellectuelle. Léon Blois, les Maritains, Peggy, Psychary, j'en ai déjà parlé aussi, c'est le petit-fils de Renan, hein, ce sont, entre beaucoup d'autres, les points d'affleurement de la grâce. En d'autres termes, voilà des prophètes qui ont des élans brûlants, de grands convertis au Dieu vivant. C'est ça qui compte. Dans Confession de foi, Jacques Maritain, qui était publié à New York, ça, il écrit, c'est un très beau livre, publié à quelques rares exemplaires, j'en ai heureusement un, il écrit, le christianisme a transfiguré tout cela. Il a appris aux hommes que l'amour vaut mieux que l'intelligence. Il a transfiguré la notion de la contemplation, qui désormais ne s'arrête pas dans l'intellect, mais seulement dans l'amour du Dieu contemplé. Il a rendu à l'action sa signification humaine de service du prochain. Et il a réhabilité le travail en décelant en lui comme une valeur de rédemption naturelle et comme une préfiguration naturelle des communications de la charité. Christianisme a appelé à la contemplation des saints et à la perfection non pas quelques spécialistes ou quelques privilégiés, mais tous les hommes, nous sommes tous appelés, hein, lesquels symétriquement sont tous astreints à la loi du travail. L'homme est à la fois homo faber et homo sapiens, et homo faber avant d'être vraiment en acte homo sapiens, et pour le devenir. Ainsi, le christianisme, ajoute-t-il, a sauvé, mais en la transformant, et en la délivrant de l'erreur qui la viciait, l'idée grecque de la supériorité de la vie contemplative. C'est assez étonnant. Un très beau texte. C'est un petit livre très beau à lire. C'est des éditions numérotées, ça. Confession de foi de Jacques Maritain. En 1912, ils font tous les deux le vœu de chasteté. Vous direz, ça n'a pas de sens, ils sont mariés. Ils sont beaux, ils s'aiment. Ils font le vœu de chasteté. Afin d'être plus libres, plus purs, plus donnés. Car ils vont vivre dans l'accueil. Et je vous parlerai tout à l'heure de Meudon où ils ont vécu, tout près de Paris. qui est devenu un centre de rayonnement, de conversion, d'études, de production de livres. Vous savez que leurs ouvrages font 15 bons gros volumes dans les œuvres complètes. 15 gros volumes, parus aux éditions universitaires de Fribourg en Suisse et aux éditions Saint-Paul à Paris. C'est une collection fantastique. En 1912, Jacques Maritain et Raissa, puis la sœur de Raissa, Vera, qui a vécu avec eux, deviennent oblats de Saint-Benoît à l'abbaye d'Osterhout, qui est une abbaye en Hollande semblable à Saint-Benoît-du-Lac. Et lui, bien, il devient professeur de philosophie au collège Stanislas de Paris. Et aujourd'hui, il est question d'un des grands philosophes de ce siècle, celui, moi, que j'aime beaucoup, que je préfère probablement, c'est Jacques Maritain, et de sa femme, Raissa Maritain. Je vous ai dit qu'on a publié les œuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain en 15 volumes aux éditions Saint-Paul. Et c'est magnifique, c'est magnifiquement publié, avec des tables et tout. Vous savez, il faut se rendre compte de la multiplicité des sujets qu'ils ont abordés. C'est incroyable, ça traite de toutes sortes de questions, mais beaucoup de questions théologiques et mystiques. Hein. Et puis, ils étaient prédisposés à une extrême sensibilité à la culture puis aux œuvres qui ont meublé l'esprit du 20e siècle, je dirais. Et ils ont compris les drames terribles qui ont marqué le temps de leur vie. L'un et l'autre étaient avides, comme je viens de l'expliquer, de vérité puis d'absolu, vous l'avez compris. Ils ont connu le désespoir qu'entraîne l'absence de toute certitude. Je vous fais un résumé parce qu'il y a des gens qui commencent à écouter seulement à la moitié parce qu'ils sont retenus ailleurs. Et Jacques Maritain puis Raissa Maritain, ils ont été blessés en plein cœur de leur jeunesse. Dans leur désir de trouver un sens à la vie, quoi. Comme tant de jeunes aujourd'hui. Puis ils n'ont échappé au suicide que grâce à l'enseignement d'un grand philosophe qui n'est pas devenu catholique, un philosophe juif, Henri Bergson, et qui était tout près du catholicisme. Mais surtout, ils sont arrivés à la grâce, là, par la tendresse puis la fraternité chrétienne de Léon Blois, cet éminent catholique extraordinaire qu'il faut lire, Léon Blois. C'est un homme de feu. Et cette grande amitié leur a servi de guide jusqu'à la conversion au catholicisme à 22, 23 ans. Et tous ces événements et ces rencontres les ont vraiment mis en sympathie avec toutes sortes d'aventures spirituelles de leurs contemporains que je vais vous raconter aujourd'hui. Et on peut trouver dans le tome 3, la page 724 des œuvres complètes, ce petit paragraphe que je vous lis parce que c'est bouleversant. C'est Jacques Maritain qui dit « Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne et qu'il n'a de grand que sa douleur, mais je respecte sa douleur. Il y a si peu d'amour dans le monde, les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. » C'est sévère, hein? Mais il écrit aussi dans ses carnets de notes, dans les œuvres complètes, c'est dans le 12e volume. Il y en a 15 volumes. Il écrit, page 316, « Quand je pense maintenant à ces années de Meudon où ils sont allés habiter près de Paris, j'ai peine à comprendre comment nous avons pu tenir le coup. En plus de la préparation de mes cours à l'Institut catholique et de mes livres, sans parler des conférences à l'étranger, en plus du temps consacré aux amis anciens et nouveaux, qui était notre grande consolation, aux visiteurs inconnus qui arrivaient avec on ne sait quel vague espoir et qu'il fallait surtout écouter, aux conversations, aux baptêmes, parce qu'il y a des conversions, aux conversions, aux baptêmes, aux vocations religieuses, toutes choses auxquelles nous n'avons jamais eu l'impiété de faire la chasse. Elles n'étaient pas notre affaire, mais celle de la grâce et quelquefois de conseillers trop pressés. Pourtant, il ne fallait pas se dérober. Il n'y avait pas seulement les cercles thomistes et les retraites. Non, il y avait aussi un foisonnement d'autres réunions, notamment des réunions dites, par plaisanterie, ésotériques, des réunions interconfessionnelles chez Berdiaev et chez nous. Des réunions qui n'ont pas abouti pour fonder une société de philosophie de la culture, d'autres pour fonder une société de philosophie de la nature. Celles-là ont abouti. Et il y avait la collection du Roseau d'Or. J'en ai dans ma bibliothèque. C'est beau, ça. C'est publié dans les années 20, là. Et celle des questions disputées aussi. J'ai celle de la Bibliothèque française de philosophie aussi. Il y a des beaux livres là-dedans. Avec tout le trimballage de manuscrits à lire. Il y avait les études carmélitaines, dont je vous ai souvent parlé, hein, du père Bruno. Et les congrès d'Avon. Avon, c'est un monastère de Carme, au bout du jardin du château de Fontainebleau. J'ai déjà fait des retraites, là, c'est beau. Ah, on y prie bien, à Avon. Il y avait, dit Jacques Maritain, les devoirs à rendre à la poésie, à la musique, à la peinture. Il y a eu la crise de l'Action française et les drames de conscience causés par la guerre civile en Espagne. Il y a eu l'affaire de Vendredi, la fondation du temps présent et la collaboration à ce périodique. Et tous ces manifestes qu'il fallait rédiger parce que ceux qu'on me proposait de signer étaient viciés par des intentions partisanes. Il ajoute aussi la paix du cœur et la poursuite de la sagesse ont pu continuer malgré tout au milieu d'une telle bousculade. Je sais un peu par qui et comment la note a été acquittée. Ben, il parle de l'esprit de raison de sa femme qui a su le sauver de trop d'empressement à faire toutes sortes de choses. Comme il vient de le décrire. Hein? Alors, il s'installe à Meudon, près de... C'est-à-dire aussi, on peut dire que Jacques et Raïssa Maritain vont s'imposer entre les deux guerres comme des guides intellectuels, hein? Des guides spirituels. Il montre, à partir des certitudes de la raison, il montre à des tas de gens qui viennent les voir que la vie entière de l'homme postule le christianisme. Comme le seul humanisme intégral, qui est le titre d'un des ouvrages de Jacques Maritain. Et plus encore, peut-être, ils vont témoigner de l'efficacité de la prière. Alors, ils s'installent donc à Meudon, près de Paris. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils font de leur maison pendant 15 ans un foyer d'accueil, d'échange et de réflexion. Un centre de vie chrétienne d'une exceptionnelle ferveur. Et voilà ce qu'il faudrait faire au Québec, ici et là, dans nos villes. Hein. Et Jacques Madoul a décrit Raïssa telle qu'il l'a vue alors. Voici sa description. Mince, ténue, assise ou plutôt presque sans poids matériel, montrant davantage son profil aigu de médaille que sa face. C'est Jacques Madoul qui l'a décrit comme ça. Et il ajoute, je crois pouvoir affirmer que personne n'est jamais sorti de cette maison où tant d'hommes et de femmes divers se rencontraient sans avoir pénétré plus avant dans son propre silence intérieur et dans la considération de l'essentiel, de ce qui est au-delà des mots, de ce qui ne peut presque plus être dit. Je vous donne donc un exemple. À Meudon, un jour de juillet 1924, Georges Auric amène Jean Cocteau. Imaginez, Jean Cocteau. Désespéré, le jeune poète va vers Jacques Maritain, parce que des amis lui ont dit qu'il pouvait l'aider à reconquérir l'espérance par la paix intérieure en retrouvant Dieu. Alors Raïssa priait intensément pour lui. Jacques a noté que ce qui était gagné l'était par la prière et l'oblation de sa femme. Un an plus tard, Cocteau rencontre à Meudon le père Charles Henrion qui arrive du désert. Il y prie. Cocteau est saisi. Il se confesse. Et il communie, entouré des Maritains, de Stanislas Fumet, qui est mort, oh, je l'ai vu quelque temps avant sa mort, Henri Guéon, puis Massignon, dont je vous ai parlé hein, aussi. Et voici une liste incomplète là, des gens qui sont passés à Meudon, juste pour vous donner une idée. Il n'y a pas eu que Cocteau, Fumet, Guéon et Massignon. Non, il y a eu bien d'autres poètes, des romanciers, des philosophes de l'entre-deux-guerres. Alors, je vous donne les noms que vous connaissez probablement. Étienne Gilson, François Mauriac, Nicolas Berdiaeff, Georges Bernanos. Je vous ai parlé de Bernanos, j'ai parlé de Max Jacob, puis de Pierre Everdy, puis de Julien Green, puis... Julien Green, ça s'en vient. Henri Faucillon, René Schwab, je viens de vous en parler. Olivier Lacombe, José Bergamin, Emmanuel Mounier, je vous en ai parlé aussi. Charles Dubos aussi, je vous en ai parlé. Mais aussi des musiciens, et comme Maxime Jacob. Maxime Jacob, c'est pas Max Jacob, c'est Maxime Jacob, c'est un autre juif qui est entré à l'abbaye bénédictine dans Calcat. Et il est devenu Don Clément Jacob. Moi, je l'ai entendu en 1950 improvisé à l'orgue là-bas. C'était fantastique, génial, Don Clément Jacob. Manuel de Falla, Georges Auric. C'est en écoutant la sonate liturgique de Arthur Courrier que le jeune peintre et futur tapissier Guy de Chaunac a été amené à s'interroger sur le sens de sa destinée. Puis finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Guy de Chaunac? Il est devenu moine, lui aussi, à l'abbaye d'Encalcate, où j'ai failli rentrer. Il est devenu le fameux Don Robert. Oui, lui, l'un des plus grands tapissiers du 20e siècle. Des tapisseries magnifiques. Hein? Cette maison de Meudon, dit François Mauriac dans son bloc-notes à la date du 6 novembre 1960, le jour même où il s'agenouillait auprès de la dépouille de Raïssa qui venait de mourir, où tant d'écrivains, de poètes, d'artistes, de jeunes prêtres sont venus s'asseoir pour écouter une parole ou pour s'unir à une prière dans l'étroite chapelle du premier étage, là, à Meudon. Que de convertis, écrit Mauriac dans les lettres françaises. Que de convertis dans les lettres françaises autour de Gilles le Luciférien. Quel remous de grâce. Claudel, Jammes, Copeau, Guéon, Rivière, Dubos, pour ne nommer que les plus illustres, mais beaucoup d'autres. Avec eux, ont tressailli de joie dans le milieu de leur vie. Tous ont chanté selon leur style et sur leur mode. Et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo. Et mon esprit a exulté dans le Seigneur, mon salut, mon sauveur. De Blois à Huysmans, dont je vous ai parlé aussi, puis Claudel, le Magnificat, je rends grâce à Dieu, mon cœur magnifie le Seigneur, n'a pas cessé, c'est le chant de la Sainte Vierge, hein, n'a pas cessé de retentir dans les lettres françaises, écrit Mauriac. Au soir de sa vie, après la mort de sa femme, Jacques Maritain prend à Toulouse l'habit des petits frères de Jésus. Il se souvient des années de Meudon. Et puis, il écrit dans sa préface au journal de Raïssa, voici ces mots, que le travail candidement entrepris par eux consistait en réalité comme tout travail qui tâche d'ouvrir aux énergies du ferment chrétien dans le monde de la culture profane, art, poésie, philosophie, à attaquer le diable sur son propre terrain. Il s'agissait, dit-il, de déloger de leur position ceux que saint Paul appelle « principes » et potestates, et contre lesquels il nous dit que le chrétien a à lutter plus que contre la chair et le sang. Je vois mieux pourquoi la mêlée était si brutale et si rapide, ajoute-t-il. Les baptêmes pleuvaient, mais les coups aussi. Ces sortes de combats ne seraient être que des coups de main menés avec un train d'enfer. Et le terrain gagné n'est pas gagné pour longtemps, parce que là où le prince de ce monde a son règne, le chrétien ne peut pas s'établir à demeure comme en terrain conquis. Je vois, ajoutait Jacques Maritain, pourquoi Raïssa a tant souffert, parce qu'elle portait le poids le plus lourd du combat dans les profondeurs invisibles de sa prière et son oblation. Allons chercher maintenant ce que notait Raïssa dans son journal. Elle écrit, c'est une erreur de s'isoler des hommes, parce qu'on possède une vue plus claire de la vérité. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'enferment chez eux puis qui ne réagissent pas. Ils vont tout doucement à la messe. Des gens sérieux, intelligents, qui ont beaucoup de qualités. Ils ne font rien. Elle dit, si Dieu n'appelle pas à la solitude, il faut vivre avec Dieu dans la multitude. Il faut vivre avec Dieu dans la multitude. Il faut le faire connaître là et le faire aimer. Oui, le faire connaître et le faire aimer. Il fait une émission il n'y a pas longtemps. Comment peut-on aimer Dieu si on ne nous en parle jamais? Comment peut-on l'aimer si on ne nous en parle pas? Elle écrit, Raïssa, j'ai le sentiment que ce qui nous est demandé à nous, c'est de vivre. Oui, de vivre dans le tourbillon, sans rien retenir de notre substance, sans retenir pour nous ni repos, ni amitié, ni santé, ni loisir. Prier sans cesse. Et cela même sans loisir, enfin nous laisser rouler dans les vagues de la volonté divine, jusqu'au jour où elle dira « c'est assez ». Et là, ben, on tombe malade ou on meurt. Hein? Raïssa et Jacques Maritain possédait Dieu. Mais selon Mauriac, qui a bénéficié de leur appui spirituel à leurs troubles où ils publiaient Souffrance du chrétien, oh, il faut lire ça, hein, ils donnaient leur vie tous les deux aux drogués de la littérature. Les drogués de la littérature, c'est les gens qui s'imaginent que tout est fait quand ils ont lu un roman, écrit un roman, et qu'ils ont acquis une notoriété qui dure 2 semaines, 2 mois. C'est leur monde. Dans son bloc-notes, Mauriac écrit « Quand je songe à ces jeunes de Meudon, je me demande s'il existe encore, pour les cerfs, les animaux, là, les cerfs exténués que les chiens traquent. » Il parle aux figurés, évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire. « S'il existe encore des étangs secrets où baigner leurs blessures. S'il existe encore des remises comme celle de Meudon pour le gibier humain. » Quand il est entré chez les petits frères, il a écrit aux petits frères Jacques Maritain, en juillet 1970. Je vous lis un passage de sa lettre. « Cher petit frère, je voudrais vous faire part d'une nouvelle qui me concerne et qui vous surprendra peut-être un peu. Le vieux Jacques a demandé à entrer chez les petits frères de Jésus, et frère René et le conseil ont eu la grande charité d'accepter sa demande. Ils ont bien voulu aussi permettre que je fasse à Toulouse mon noviciat qui commencera à la mi-octobre. Je comprendrais très bien que vous receviez cette nouvelle avec un grand éclat de rire. Ce vieux bonhomme de philosophe qui va bientôt avoir 88 ans et qui entreprend de franchir allègrement la limite d'âge de n'avoir pas plus de 35 ans imposée aux postulants. Ce qui faisait de moi un laïc invétéré, c'est que ma longue équipée de Don Quichotte de Saint-Thomas demandait absolument à être conduite sous ma seule responsabilité de franc-tireur. Or, il se trouve, ajoute-t-il, que l'équipée en question est maintenant terminée, avec le livre dont je viens juste d'achever le manuscrit qui paraîtra dans quelques mois. Un philosophe, à la fin de sa vie, fait bien de se tourner vers les choses d'en haut, mais après avoir osé aborder un sujet tel que « De l'Église au Christ », il n'écrit plus de livre. Une fois que j'ai bien compris cela, je me suis senti libre de suivre mon désir de partager à fond votre vie, être consacré à Dieu, par les mains de son Église, pratiquer l'obéissance religieuse. Quel choix meilleur pouvais-je faire? Les années que j'ai passées à la fraternité d'études m'ont confirmé dans mon amour de la vocation et de l'esprit des petits frères de Jésus, et dans ma conviction qu'ils apportent à notre temps ce dont il a le plus grand besoin. Puissais-je vivre un tout petit bout de temps et mourir en bon petit frère de Jésus? Priez pour moi. » Alors, Jacques Maritain, on peut dire, en résumé, a enseigné à l'Institut catholique de Paris. Il a été, je ne vous l'avais pas dit, ambassadeur auprès du Vatican. Il a même été professeur à Princeton, aux États-Unis. Et partout, il recevait beaucoup de gens. Et Raissa, partout où elle a vécu, à Paris, à Meudon, aux États-Unis, à Rome, son corps meurtri par la souffrance, l'âme déchirée par la détresse du monde et le spectacle du péché. Mais Raissa n'a pas cessé de vivre unie à Dieu, comme une sainte, de s'offrir à Dieu, oui, comme une sainte, de participer au mystère de la croix de Jésus-Christ, oui, comme une sainte. L'un et l'autre ont voulu tout revivifier dans le Christ, en mettant en contact, comme l'a dit Jean-Paul II, la foi avec la culture et la culture avec la foi. C'est ce qui nous manque ici, la culture et la foi. Ça nous manque beaucoup trop. Raissa est morte le 4 novembre 1960. Je vous ai fait une rencontre spirituelle en 1997, ce jour-là, le 4 novembre 1997. La cassette est disponible, je le signale, parce que Raissa est tellement merveilleuse, je l'aime beaucoup. Et Jacques Maritain, lui, est mort le 28 avril 1973. Ce sont des gens tellement attachants, que je tiens à vous raconter en terminant qu'en janvier 73, Jacques, alors 90 ans, il est à Paris avec un ami, Heinz, afin de remettre le manuscrit d'Approche sans entrave aux éditions Fayard, et devant l'insistance du directeur de la maison d'édition, Jacques Maritain accepte de se laisser encore une fois photographier. Pour cette belle photo, ce sera la dernière photo de lui. C'est dans le Jardin des Plantes, où il s'était promené. Vous vous souvenez au début de l'émission? Le Jardin zoologique, il s'était promené. Puis il se posait des questions tous les deux. Ils étaient tout jeunes au début de la vingtaine. Jacques et Raissan. Et au jour convenu, un taxi nous y conduit. Et Jacques, sans se soucier du photographe qui fait son travail, se promène dans une allée du jardin. Il regarde paisiblement autour de lui. Toujours de son beau regard doux et droit. Je l'ai rencontré, moi, au Ritz-Carlton, à Montréal. J'avais assisté à une de ses conférences. Je lui ai parlé quelque temps. Ce regard était extraordinaire. J'avais 17 ans. Ça m'a bouleversé. Il m'a fait un autographe, d'ailleurs, dans un livre, dans Primauté du spirituel. C'est des beaux souvenirs, ça, qu'on garde pour la vie. Pour la vie. Alors, il y a un beau sourire, petit sourire. Et Maurice Morin écrit... Nous savions alors, sans qu'il soit besoin de nous le dire, que Jacques rendait grâce à Dieu et à Raïcha pour ses 70 années écoulées depuis une certaine promenade en ces mêmes lieux avec la jeune Raïcha, hein, que je vous ai raconté tout à l'heure. Il n'avait pas encore 20 ans et il désespérait alors de trouver un sens au mot vérité puis de pouvoir connaître le sens profond de leur vie. Et 3 mois plus tard, Jacques passait en paix dans l'autre vie après que cette photo qui a été prise au Jardin des Plantes. C'est dans un beau livre, ça, les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain, aux éditions du Carmel. Vous pouvez acheter ça au Carmel de Montréal, ou bien, vous pouvez les acheter dans les magasins aussi, de livres religieux, comme la librairie Pauline. Mais c'est cher. 67 $. Alors, j'en ai acheté un exemplaire, c'est plein de belles photos, plein de belles choses. C'est tellement beau à lire qu'on a le cœur gros de penser qu'il y a des gens si merveilleux dans l'Église. Si merveilleux. Si merveilleux. On ne peut que rendre grâce à Dieu en lisant l'évangile d'aujourd'hui à la messe. Jésus dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Oh, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a données. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Oui, Dieu et Jésus sont un en l'Esprit Saint. C'est la grande joie de la révélation qui nous a été faite, de cet amour éternel qui existe entre les 3 personnes dans la Trinité, amour qui dure depuis toujours, pour toujours, et que nous sommes appelés à partager comme Jacques et Raïs Samaritain, qui ont fait de leur mariage un mariage sanctifié. Puissent-ils être canonisés un jour ?